Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Jérôme Peignot, qui publie « Broyer du bleu » aux éditions du Rocher. J'hésite sur la route à prendre. Tant pis si je me trompe et me perds. De toute façon, où qu'on soit, perdu, on l'est toujours. Votre du même auteur, Jérôme Peignot, est impressionnant. Une trentaine de titres.
Oui, je me demande comment j'ai écrit tout ça.
Depuis les Jérômiades,
oui.
Qui datent de 1957, aux éditions du Seuil, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Hein. Il y en a trois volumes.
Mon excuse, c'est que je vais avoir bientôt 80 ans cette année.
Et puis, Grandeur et misère d'un employé de bureau.
Ah oui, l'histoire d'une grève que j'avais organisée dans un journal.
Des essais, oui. Des essais en particulier sur l'écriture et la typographie.
Mais aussi, de vous interrompre, il y avait aussi Les jeux de l'amour et du langage que j'avais publié dans le 10-18, qui est un essai sur le langage amoureux. Je me souviens, ça partait d'une phrase de Stendhal dans Le Rouge et Noir. Le comte Mosca est sur le bord du trottoir et il voit la Sanseverina partir dans la calèche et il se dit « S'il prononce le mot amour, je suis foutu ». Alors, c'est cette phrase de Stendhal qui m'a fait partir et qui m'a fait écrire ce livre. Mmh. Quel est le rôle du langage dans le sentiment amoureux ?
Je voudrais citer aussi Tipoésie, que vous avez publié à l'Imprimerie nationale en 93, et 10 poèmes au Seuil en 2004. Alors, ça, ce sont des livres tout à fait particuliers, j'ai envie de dire, qui sortent de l'ordinaire.
C'est sortent de l'ordinaire, oui, oui. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet. Je l'avais proposé ça, disons, à un grand éditeur parisien, qui m'a répondu, c'est merveilleux votre recueil, mais nous ne pouvons pas publier ça parce que ça sort trop de l'ordinaire. À quoi j'ai répondu ? Heureusement que vous ne m'avez pas publié, parce que je me serais retrouvé au milieu de vos publications ordinaires. Mais non, ça n'est pas extraordinaire, ce sont des poèmes visuels. La poésie visuelle, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Elle existe, disons que c'est l'avatar moderne du calligramme, et ça existe depuis 1920. En gros, il y a un homme qui s'appelle Gomringer, un Suisse-Allemand, qui avait inventé cette mode poétique, cette écriture poétique, où les mots sont en même temps des images. Bien, c'est ce qu'avait fait Apollinaire avec ses calligrammes, mais en un peu plus, comment dire, condensé, serré. Ce mouvement de la poésie visuelle a été repris en 1968 par les étudiants contestataires, qui voulait inventer, un peu comme les gens, les constructivistes russes, un nouveau langage, qui soit un langage révolutionnaire. Eh bien, ce mode poétique, ce genre poétique à part entière, s'est développé à cette époque. Et beaucoup plus, d'ailleurs, à l'étranger, en Allemagne en particulier, en Angleterre, en France. Il y a un homme qui s'appelle Pierre Garnier, dont on n'entend plus parler, mais qui ne fait pas tout à fait des poésies visuelles, d'ailleurs. Et je crois être le seul, je m'étonne d'ailleurs, d'être le seul à faire ce genre de poésie. Alors oui, finalement, Le Seuil a publié un recueil il y a peu de temps, c'était il y a 2 ans, de poésie visuelle. Mmh. J'ai trouvé un tel plaisir à les faire que j'ai envie d'en refaire d'autres. Mais ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'en fasse pas en France. Voilà ce que je peux vous répondre en ce qui concerne la poésie visuelle.
Alors, je ne voudrais pas évoquer cette bibliographie, Jérôme Peignot, sans mentionner un livre qui a été publié en 1972 chez Jean-Jacques Pouvert, Les écrits de l'or. Parce que l'or, c'est quand même votre grande affaire aussi. L'or, c'était votre grand-tante.
Oui, c'est la sœur.
C'est la sœur de Georges Bataille, je précise.
Et la sœur de mon père qui, après avoir vécu quelques années avec... Bon, elle est née en 1905, elle est morte en 1938, à 35 ans, de la tuberculose. Et elle a été, après avoir vécu avec Boris Souvarine, dont j'ai publié les écrits aux éditions des Centres, justement, correspondance de l'or avec Boris Souvarine, il y a aussi quelques années. Et après avoir été la compagne de Souvarine, elle est devenue la compagne de Georges Bataille. Et en 1972, son œuvre n'avait pas été publiée parce que mon père s'y opposait. Et me retrouvant en prison avec un de mes titres de gloire, avec mon ami Michel Léris, qui était aussi un ami très cher de l'or, et bien sûr de Georges Bataille, a décidé de me donner ses papiers. Papiers que je n'avais pas pu lire, parce que mon père les avait mis sous le boisseau. Et j'ai décidé de publier les écrits de ma tante, chose que Gallimard a refusée, parce qu'il n'en avait pas les droits. Pauvert, tout de suite, à qui je l'avais proposé, s'est mis sur les rangs. Et grâce à une association des amis de l'or que j'avais composée, grâce à mon avocat qui s'appelait Roland Dumas m'a incité à créer une association des amis de l'or avec Foucault, Marguerite Duras, je crois qu'il y avait Simone de Beauvoir et d'autres. Et nous avons bataillé. Et finalement, non seulement ces écrits de l'or ont été publiés une première fois, mais il y a eu une réédition. Et puis maintenant,
une réédition en 10-18.
Maintenant, c'est dans le 18. Maintenant, j'ai Fayard qui l'a. Même les rééditions m'échappent. Je ne sais pas, c'est devenu, je peux dire, un livre célèbre. Alors, moi, j'avais fait une longue préface qui s'appelle « Ma mère diagonale ». Parce que cette femme, je l'avais en admiration, c'est un très très grand poète, ce sont des poèmes érotiques, des écrits politiques, et surtout aussi une histoire qu'elle a appelée une histoire d'une petite fille, qui est un texte absolument autobiographique, mais absolument somptueux, magnifique. Elle est traduite dans le monde entier, enfin, en Amérique, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, elle a eu le prix du meilleur livre étranger il y a une dizaine d'années déjà, parce que tout ça, oui, remonte à 72. Voilà. Alors, je suis très très fier d'avoir publié l'œuvre de ma tante, qui s'appelle « Les écrits de l'or », qui est aujourd'hui chez Fayard.
Revenons à l'actualité, Jérôme Peignot. Il y a donc ce livre « Broyé du bleu » dont nous allons parler, « Nouvelles et notules » aux éditions du Rocher, et un autre livre que je n'ai pas annoncé tout à l'heure, que vous co-signez avec Marcel Cohen, « Histoire et art de l'écriture ». C'est un livre qui paraît dans la collection « Bouquins » chez Robert Laffont. Et en fait, c'est une somme, il ne doit pas y en avoir beaucoup d'autres comme celle-là, sur l'écriture, ses rapports avec les civilisations et l'art graphique, sur la calligraphie, le beau lettrage, dit calligramme, par Apollinaire, et sur toute la technique de la galaxie Gutenberg.
Oui. Un jour, j'ai rencontré un homme charmant que vous devez connaître, qui s'appelle Pascal Charvet, qui a publié un livre sur Properce, aux éditions de l'Imprimerie nationale et qui, en me serrant la main, me dit « je veux faire un livre avec vous ». Et ce livre, c'était celui-là. Il s'agissait de faire un ouvrage le plus exhaustif possible sur l'écriture. Hein, l'écriture. Qu'est-ce que c'est que l'écriture ? Quid de l'écriture ? Beaucoup de gens, tout le monde, se sert de l'écriture, mais finalement, on ne sait pas très bien ce qu'on sait. On confond écriture et langage, langage et alphabet. Alors, j'ai eu l'idée de proposer de bâtir un livre sur ce sujet à mon ami Pascal Charvet. Alors, Pascal m'a dit, on commence par reproduire trois de tes livres, c'est-à-dire mon livre de Gallimard, qui s'appelait « De l'écriture à la typographie », mon livre sur le calligramme, que j'avais publié aux éditions Duchesne, et puis un troisième ouvrage sur la calligraphie, que j'avais publié aux éditions Jacques Damas, devenu par la suite édition Hachette. Bon, alors on a reproduit ces trois livres, et puis la collection bouquins, généralement, c'est 1000 pages. Alors, je ne remplissais à peu près que la moitié du volume. Il fallait trouver autre chose. Alors, autre chose, c'était un ouvrage de cet homme qui s'appelle Marcel Cohen, qui est mort...
Un linguiste.
Linguiste célèbre, fameux, qui est mort il y a une trentaine d'années et qui avait fait un ouvrage, toujours à l'Imprimerie nationale, sur, au fond, les grandes étapes de l'évolution de l'histoire de l'écriture, depuis les Acadiens, 4000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à nos jours.
Un livre qui a été publié en 58 et qui est épuisé.
Bien sûr, surépuisé. Et puis, ça ne comblait pas encore tout le, comment dire, tout l'essentiel de ce que nous voulions couvrir, comme on dit. Et alors, j'ai choisi de reprendre un colloque qui s'appelle « Synthèse » ou « La psychologie des peuples », où les plus grands savants en matière d'écriture, Lévi Brulle, Gerner, M. Martin, Alfred Métraux, parlent de l'écriture dans le registre qui leur est propre. Et non seulement chacun fait un exposé, mais ils discutent. Et leurs discussions sont aussi vivantes, intéressantes que leurs propos. Et voilà, en plus de cela, il m'a fallu concevoir un glossaire, une énorme, colossale bibliographie. Parce que, vous savez, quand on parle de l'écriture, c'est un peu comme on soulève une pierre dans une forêt, ça grouille en dessous. Bien, soulever le sujet de l'écriture, c'est soulever le sujet de l'humanité. Alors, c'est ce qui a été le plus difficile, au fond, c'est de serrer les boulons. Et voilà ce que cette somme est enfin sortie. Vraiment, c'est vrai que j'en suis très heureux parce que vraiment, je crois que ce livre comble un vide. Pareille entreprise n'avait pas encore jamais été tentée.
Mais comment se fait-il que vous soyez à ce point intéressé, vous, Jérôme Peignot, par la calligraphie, l'écriture, au sens physique du terme, la typographie ?
Alors, la raison en est que, d'abord, je suis le fils d'un homme qui a dirigé une entreprise qui s'appelait De Bernis et Peignot. De Bernis, ça vous dit quelque chose ? C'est la Dilecta, c'est Madame... avant Balamanska, Balzac vivait avec Madame De Bernis, Laure De Bernis, la Dilecta.
On ne sort pas des Laures, hein ? On ne sort pas des Laures.
On ne sort pas des Laures. Et cette Madame Anska avait financé cette entreprise de Balzac qui consistait à créer une fonderie de caractères d'imprimerie, comme ma famille. Et puis ensuite, il voulait à la fois tout faire, fondre des caractères d'imprimerie, écrire, imprimer, éditer les livres. Il voulait tout faire, toute l'échelle de l'édition. Il voulait l'assumer. Et puis finalement, comme beaucoup des entreprises commerciales de Balzac, cette affaire n'a pas marché. Et il y a eu une fusion d'entreprises, l'affaire De Bernis et Peignot. L'affaire Peignot, c'est devenu l'affaire De Bernis et Peignot. C'est deux entreprises qui se sont entremangées. Et voilà que cette fonderie typographique est devenue la plus importante, je peux dire, de France et peut-être même d'Europe. Alors moi, je suis né dans le plomb.
Alors vous êtes un riche héritier.
Non, car tout ça a disparu. Évidemment, quand est arrivée l'informatique, la Lumitype, qui a été la première machine à photocomposer, mais j'ai gardé l'amour du plomb, de cet art magnifique. Et je fais aujourd'hui même, avec vous, Alain Einstein, partie d'une petite équipe qui travaille au sauvetage du patrimoine de l'Imprimerie nationale, hautement menacé. L'immeuble de l'Imprimerie nationale, rue de la Convention, a été vendu à la société Carlyle. L'Imprimerie nationale est dans un état de déficit abyssal. Alors qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine un cabinet des poinçons qui est là depuis François Ier, où se trouvent les Garmont, des caractères d'imprimerie dans 80 langues différentes, étalées du 15e siècle à nos jours, des machines, un trésor, un savoir-faire. Le pouvoir n'a rien prévu. Tout cela se trouve en ce moment stocké dans un hangar à Ivry, et nous battons pour concevoir un centre, un lieu, un temple de l'écriture. Ça a commencé à la foire de la poésie, place Saint-Sulpice, lancé une pétition que nous avons fait signer aujourd'hui par plus de 20 000 personnes de toutes les plus grandes universités du monde, le Canada, l'Amérique, Colombia, le Japon, ont signé cette pétition appelant au sauvetage du patrimoine de l'imprimerie nationale.
Vous pensez que l'imprimerie traditionnelle a du plomb dans l'aile ?
Je pense que l'imprimerie traditionnelle a du plomb, plus que ça, en France. En France, en tout cas, elle est carrément en perdition, alors que partout ailleurs, que ce soit le musée Plantin en Vert, le musée Bodoni de Parme ou aux États-Unis, elle continue de fonctionner, le marché. C'est un trésor patrimonial, d'une valeur absolument inestimable. Alors, pourquoi moi, je me suis intéressé à ça ? Alors, il se trouve que le signe, le signifiant, le signifié. Pourquoi ce malheureux signe est-il abandonné ? Et j'ai toujours eu cette obsession de vouloir inclure le signe à sa juste valeur, finalement, dans la littérature. Mallarmé, par exemple, dans « Quant au livre », a beaucoup parlé de typographie. Peut-être vous avez oublié que, par exemple, le coup de dé jamais n'abolira le hasard, et Mallarmé l'a voulu à la fois en alexandrin éclaté, et composé, tous les blancs étant des diminutifs de 12, et composé en Didoque, inventeur du code typographique qu'on a appelé le 12. Mallarmé se passionnait pour la typographie. Balzac, dont je viens de parler, un certain nombre d'écrivains se sont passionnés pour la typographie. Et bien moi aussi, j'ai voulu, j'ai voulu faire de la littérature, de la poésie, avec des caractères d'imprimerie.
Oui, sont les livres que vous citiez tout à l'heure, Typoésie et Typoème.
Et Typoème, voilà, c'est ça. Mais alors, ce Typoésie donc, est repris dans le livre de Lafont, ainsi que le Calligramme et le livre sur la calligraphie. Voilà, mais bon, je ne fais pas... j'ai enseigné cela à la Sorbonne, j'ai mon petit doctorat sur ce sujet, car je voulais aussi militer pour un enseignement de l'écriture qui existe partout dans le monde, sauf en France. Alors la raison pour laquelle j'ai passé le doctorat là-dessus, avec Madame Kristeva, Monsieur Lebot, Jean Laude...
Vous êtes calé, alors
Oui, j'ai une passion pour cette chose. Alors évidemment, on a un certain savoir là-dessus. Mais mon objectif, c'est la littérature.
Il y a un caractère d'imprimerie qui s'appelle le peignot. Oui. C'est pas vous qui l'avez inventé.
Non, Cassandre. Cassandre, en 1937, pour l'exposition de 1937, universelle, les premières lettres sur les phrases merveilleuses de Paul Valéry qui sont sur les murs du Trocadéro sont composées en peignot. C'est là que le caractère de Cassandre, qui aurait dû s'appeler Cassandre. D'ailleurs, Cassandre lui-même m'a avoué que mon père lui avait volé son caractère. Il faut dire que j'étais en très mauvais terme avec mon père.
Et vous avez votre petit caractère.
Hein. Moi, j'ai mon petit caractère aussi, surtout quand il s'agit de le défendre sous forme de quadratin de plomb.
Il y a donc ce livre, Jérôme Peignot, que vous co-signez avec Marcel Cohen, « Histoire et art de l'écriture », dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, et votre livre, à vous tout seul, « Broyé du bleu », sous-titré « Nouvelles au pluriel et notules » aux éditions du Rocher, un livre où l'écriture est encore à l'honneur, et vous la mettez en évidence puisque vous dites que ce livre vous est venu sous la plume, tout à trac, sans contrôle aucun. C'est un livre qui coule de source.
Je vais, par un petit détour, répondre à votre question. J'ai publié, il y a quelque temps, un autre livre aux éditions Kalman-Lévy, que je voulais appeler « Le triangle botanique », mais qui s'est appelé, en vérité, finalement, « Un printemps à Pékin ». Le héros de ce roman était l'homme qui s'est planté devant le char sur la place Tiananmen. Vous vous souvenez de cet homme qui m'a fait, moi, qui m'a, dont l'épreuve m'a absolument bouleversé. Et j'ai écrit un roman sur son histoire. Sur son histoire. Et je pense qu'en vérité, le véritable écrivain, c'est lui. Que l'écriture, Laure disait à Bataille, on ne se rattrape pas sur du papier. Elle engueulait Bataille, qui, parce qu'il écrivait, se croyait, il se croyait épargné et croyait assumer tout ce qu'il devait, tout le courage dont il devait faire preuve, simplement parce qu'il écrivait. Non, disait Laure, on ne se rattrape pas sur du papier. La véritable écriture, c'est la façon de mettre un pied devant l'autre. Véritable. Elle disait aussi à Léris, comment tu ne mets pas ta vie en jeu dans l'écriture. Bien, alors c'est cette dimension-là que j'ai voulu, transcrire dans mes écrits, dans mes romans et dans mes nouvelles. Voilà. Alors ce garçon, nous donne une leçon d'écriture en simplement mettant un pied devant l'autre.
Les nouvelles, vous en aviez publié déjà aux éditions des Cendres il y a 3 ou 4 ans.
Oui, c'est ça.
Sous le titre « Je vous donne de mes nouvelles ».
C'est ça.
Et déjà, la nouvelle était pour vous un exercice qui consiste à mettre un pied devant l'autre, puisque c'est un exercice autobiographique.
Oui, je racontais en particulier comment j'avais organisé une grève dans le journal qu'il m'employait, grève qui a d'ailleurs fait l'objet d'un roman que j'ai publié chez Gallimard qui s'appelle « Grandeur et misère d'un employé de bureau » qui est l'histoire d'une grève. Monsieur, au lieu d'être monsieur, madame et la grève, et monsieur, madame et l'amant, c'est monsieur, les copains, la grève. Où il explique que c'est pas si facile d'organiser une grève. Mais avec la publication des écrits de ma tante, ma mère diagonale, ce roman et cette grève sont les deux actes dont je suis le plus fier dans ma vie. Bien. Alors, revenons-en aux nouvelles. Oui. C'est vrai que les nouvelles sur le tard, c'est un genre qui m'est venu sous la plume. Il y a quelque chose de vif, qui me plaît, de chatoyant, de gai, de léger. Et sur le tard, j'ai envie d'écrire des nouvelles.
Et ça vient comme ça, les nouvelles.
Voilà, oui, ça vient comme ça. Ça vient comme ça.
Sans crier gare.
Oui, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, au fond, que l'écriture doit nous venir. Si l'écriture est une tâche, ce n'est pas une véritable écriture. C'est un plaisir, tout cela. Tout ça, c'est du plaisir d'écrire. Je ne sais pas pourquoi. On vante tellement les écrivains d'être des gens tout à fait à part. Non. Ce sont des petits salopards qui prennent leur plaisir à écrire. Une joie incommensurable. Je ne sais pas, pour moi, c'est la grande joie de mon existence.
Il vaut mieux écrire que de broyer du noir.
Non, mais pourquoi broyer du noir ? Alors, je vous explique le titre. La nouvelle le dit, c'est la dernière nouvelle du recueil. Je me trouvais chez des amis à l'île Dieu. Je devais aller au bord, leur maison est au centre de l'île, je devais aller sur une plage, j'y suis baladé en vélo, le vélo le crevait. Il a fallu donc revenir à pied, à travers une lande un peu compliquée, difficile. Et à un moment donné, j'ai vu un hélicoptère s'arrêter juste au-dessus de ma tête et descendre assez bas. Et j'ai pu apprendre par la suite que l'endroit est surveillé parce que, évidemment, on craint les incendiaires sur cette lande. C'était en plein été. Et je me trouvais mal parce que je suis un peu défaillant. Hein. Ma santé est un peu chancelante à 79 ans. Alors, je me suis demandé si au fond, je n'étais pas, si cet homme, si ce, ce, cet hélicoptère ne venait pas parce que je ne me sentais pas tout à fait à mon aise. Et alors, je raconte que je suis à la fois content de le voir, mais je me demande pourquoi il est là. Et en même temps, je me dis, bah oui, après tout, c'est peut-être qu'il vient de me chercher. Je n'ai plus très bien su si, après tout, j'étais pas déjà un peu mort. Mais de toute façon, j'étais très heureux. Mort ou pas, mort ou vif ou pas, cette idée avec les pales de l'hélice de broyer du bleu, cette image m'est venue, je l'ai trouvée jolie.
Mmh. Et le bleu, c'est donc le bleu du ciel.
Voilà, c'est le bleu du ciel, oui. Oui. Pourquoi faudrait-il favoriser l'expression broyer du noir ? Puisqu'on broie du noir, on peut broyer une autre couleur. Et pourquoi pas du ciel ? Et pourquoi du ciel, pas du ciel bleu ? Voilà la raison de ce titre, en tout cas.
Mais le bleu du ciel, ça fait évidemment penser tout de suite à...
Et puis le bleu du ciel, ça fait penser à Bataille, évidemment. Lequel livre de Bataille fait-elle penser à Simone Veil ? Parce que Simone Veil et Laure sont les héroïnes du bleu du ciel. C'est au moment où Bataille se trouvait, pendant la révolution de 1936, Laure est morte en 38, à Barcelone. Où le moment était évidemment très, très, très chaud, très fort, très vif, très tendu. Depuis, Barcelone est devenue une ville bourgeoise. Mais à l'époque, Bataille, Laure et Simone Veil sont engagés dans cette... comment dire... par le cœur, par... Simone Veil par les armes, car Simone Veil a porté les armes, mais pas l'or, et pas Bataille. Mais Simone Veil a porté les armes, comme d'ailleurs, elle s'est introduite et a travaillé dans une usine. Et justement, Simone Veil donne la mesure de cet engagement dont je parlais tout à l'heure avec mon copain sur la place Tiananmen. Simone Veil, c'est ça. Et l'or, d'une certaine façon, c'est ça aussi. Mais c'est sur le terrain de sa sexualité que son engagement est le plus radical. Enfin, ses écrits l'indiquent. Il y a un texte aussi de Bataille qui s'appelle L'or, où il a raconté brièvement le parcours et la vie de L'or. Et où il dit ça, que pour elle, son statut de... femme bourgeoise était quelque chose finalement qu'elle n'arrivait pas à assumer. À un moment donné, dans les années 30, elle est partie en Union soviétique, enfin en Russie, pour partager, comme elle disait, la vie des plus déshérités des Moudjiks. Et elle a raconté ce qu'elle a vécu là-bas. Puis ensuite, quand elle est revenue, alors avec Souvarine, elle avait appris le russe, sa grande déconvenue, finalement, une des grandes souffrances de sa vie, c'est de s'apercevoir que le communisme avait été trahi sous sa forme stalinienne. Elle avait été obligée de travailler pour la Critique sociale, la revue de Souvarine, dont elle était finalement la rédactrice en chef avec Souvarine. Et elle avait traduit des articles sur la construction du transsibérien. Et elle s'était aperçue à travers les lectures que des centaines, des milliers d'hommes étaient morts à construire le transsibérien. Sous la schlag, finalement, communiste. Et elle est tombée de très haut quand elle s'est aperçue de quelle figure, de quelle nature devenait le communisme auquel elle s'était pourtant vouée corps et âme. Mmh.
Donc en choisissant d'appeler votre livre « Broyer du bleu », vous pensiez un peu indirectement à tout ça ?
Mais je pense à tout ça. Je pense que l'écriture, c'est ça. Mais d'engager sa vie à écrire est un coup... je le dis, toute proportion gardée. C'est quand même un pari assez vertigineux.
Il y a écrit et écrit. Et par exemple, vous vous êtes engagé tardivement dans la voie de la nouvelle. Pourquoi cette vendange tardive ?
Pourquoi la typoésie ? Pourquoi les nouvelles ? Pourquoi j'écris aussi cet essai « Les jeux de la bourrée du langage » ? Pourquoi mon roman chinois ? Pourquoi les jérômiades ? J'ai une réponse. On subit ce que l'on écrit, Alain. Mais on n'a pas la tête entre les mains en se disant « qu'est-ce que je vais écrire demain, ce matin ?» On subit ce qu'on écrit. Et faute de quoi, d'ailleurs, ce que l'on écrit ne tient pas la route. Alors, je subis, je suis à l'écoute, hein, et tout d'un coup, voilà, c'est ça. Et je vais vous dire, maintenant, en ce moment même, je suis en train de finir un recueil de sonnets. J'ai écrit des sonnets. J'allais vous en parler parce que j'allais vous demander un éditeur. Vous alliez m'aider pour trouver un éditeur. Je vous raconte. Chez mes amis de l'Île-Dieu, j'étais un jour tout seul. Leur fille était là, mais les parents n'étaient pas encore arrivés. C'était l'anniversaire de Claire et c'était la fête de Joël, ou l'inverse. Alors elle me dit, il faut que tu leur fasses quelque chose. Je lisais les sonnets de Shakespeare. Les sonnets de Shakespeare sont traduits dans la collection La Pléiade en vers alexandrin. Extraordinaire, prouesse. Alors, admiratif, bouleversé par ces écrits, par ces sonnets de Shakespeare, je me suis dit, je vais leur écrire des sonnets. Et puis, voilà, ça... Ça ne leur a pas déplu. Et Anne m'a dit, eh bien, voilà, maintenant, il faut que tu te lances, tu vas en écrire 100, on appellera ça les 100 sonnets de Kerboni. Kerboni, c'est le nom du petit village. Ah ben voilà, ça y est, j'en ai écrit 100. Et j'ai trouvé un plaisir énorme à écrire ces 100 sonnets. C'est la vie qui m'a apporté cette histoire.
Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question.
Si, je vous ai dit, on subit ce que l'on écrit et on ne décide pas d'écrire des sonnets ou des petits poèmes. Voilà,
là, dans l'une des nouvelles du livre, vous dites que depuis toujours, à tort ou à raison, vous aviez décidé d'écrire.
Oui, c'est vrai en même temps.
Mais votre papa n'était pas tout à fait d'accord.
J'avais décidé d'écrire parce que pendant la guerre, donc je me sentais très, très isolé, mais mon père était collaborateur, vraiment, quelqu'un d'infréquentable, un salaud, je le dis comme je le pense. Et mon seul refuge, ma seule solitude, j'étais au lycée Louis-le-Grand, qui était un lycée occupé par aussi des miliciens, on ne parlait à personne. Et mon seul refuge pendant la guerre, ça a été la lecture. Je lisais Proust. Et Proust et la lecture, je n'ai jamais pu lire sans aussitôt écrire. Par exemple, je viens de vous le dire, les sonnets de Shakespeare m'ont introduit à en écrire à mon tour. Eh bien, là, pendant la guerre, c'est là où j'ai décidé que j'allais consacrer ma vie à la littérature. Et c'est l'écriture. La lecture qui m'y a incité. Là, c'était Proust, je me souviens, des moments merveilleux. Dans cette horreur de la guerre, j'ai vécu des moments merveilleux en lisant Proust. Et puis d'autres, et puis Stendhal, et puis Balzac, et puis... Et d'une certaine façon, je suis un autodidacte, puisque mon père avait en plus refusé de me payer les études. Et j'ai passé mon doctorat très tard, j'avais 60 ans, quand j'ai passé mon doctorat. J'ai commencé petitement à faire des certificats de philo, mais... Je me suis formé moi-même à coup de lecture.
Et vous n'avez jamais baissé les bras.
Pourquoi ? Puis c'est un tel plaisir. En ce moment, où à 79 ans, je me sens un petit peu plus faiblard que jusqu'alors. Ce qui me maintient en vie. Hein ?
Vous avez l'air en pleine forme.
Alors,
vous dramatisez un peu, là.
Oui, peut-être. Mais c'est pour mieux vous faire comprendre. Ce qui me tient en vie, c'est l'amitié. Hein ? Et c'est l'amitié, et c'est l'écriture, et c'est le travail. Voilà les deux choses qui me tiennent en vie. J'aurais plus d'amis, hein ? Je pourrais pas bavarder avec vous, là. Je me sentirais moins bien, mais je me sens bien à bavarder, là. L'amitié et l'écriture sont les deux choses qui me font vivre, c'est vrai. Qui m'ont toujours fait vivre, et encore plus maintenant, à mon âge.
Pas l'amour.
Écoutez, j'ai fait un poème, justement, plusieurs de mes sonnets traitent de cette question. Je crois pouvoir vous répondre, après avoir beaucoup réfléchi à cela, que finalement l'écriture est la métaphore de l'amour et le double de l'amour. Et oui, il y a quelque chose. Là, un ami à nous, Maurice Roche, disait ça. Il disait ça. La pollution, le papier que sa blancheur défend, dont parle Mallarmé, le papier que sa blancheur défend. En calligraphie, tiens, j'y reviens, Paillasson, qui est l'auteur des pages que j'ai reproduites dans le livre de Lafont, les pages, il a été chargé d'écrire les pages sur la calligraphie dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et il dit que tout le vocabulaire de la calligraphie fait référence au corps. On dit la main, l'œil, le pied d'une lettre. Au corps ou à l'amour. Les passes, l'approche, la licence, tout ça, ça veut dire quelque chose en calligraphie. Donc le vocabulaire de la calligraphie double absolument le langage, le vocabulaire de la calligraphie. C'est quand même extraordinaire. Et de l'amour. Donc, c'est quand même extraordinaire, Sartre. Oui, mais je ne fais pas de départ entre mes écrits sur l'écriture et mes et Broyer du Bleu et mes nouvelles et mes poèmes. Ouais. Tout ça, c'est la même chose.
Mais il ne faudrait pas croire que dans Broyer du Bleu, il n'est question que de l'écriture.
Non.
Il y a beaucoup d'autres choses, et oui, en particulier la vie quotidienne est très présente. Il se trouve que vous faites partie de ces privilégiés qui peuvent prendre l'autobus et qui ne sont pas dans les encombrements créés par les couloirs de bus. Parmi les bus que vous empruntez régulièrement, il y a le 72. Il y a un texte que vous avez appelé, je crois, les vérités du 72.
Oui, absolument.
Dans lequel vous dites que le trajet du 72 est le plus beau de Paris. Et vous le prouvez. Mais ça commence mal. Ça commence mal parce que, au début du parcours, il y a ce que vous appelez ce camembert. Ce camembert qui est la maison de la radio.
Oui. Ben oui, écoutez, pardonnez-moi, mais... Écoutez, non, je peux le dire après tout parce que j'ai beaucoup travaillé dans cette maison. J'ai travaillé au Masque et la Plume avec Bastide et Pollack pendant près de 10 ans. Et j'ai travaillé avec Claude Métra au Chemin de la Connaissance aussi pendant 10 ans. Alors, ce camembert, c'est la maison où nous sommes... Alain, vous et moi en ce moment.
Elle est très bien, cette maison. On
oui,
y est très bien.
On y rencontre de charmants amis, mais je ne peux pas la défendre esthétiquement, plastiquement. Non, je ne peux pas dire que c'est un beau monument. Et je trouve que Paris a été abîmé de façon... Et je le raconte dans mon trajet du 72. Je le raconte... Il y a vraiment des choses horribles dans Paris. Mais il se trouve...
Il ne faut pas nous le dire, parce qu'après, vous allez nous faire broyer du noir. Le livre de Jérôme Peignot, Broyer du Bleu, Nouvelles et Notules, est publié aux éditions du Rocher. Du jour au lendemain, Angélique Thibault, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.